Chapitre 6. Autrefois, j'aurais pu tout vous dire sur moi. Je vous aurais dit avec certitude que je m'appelais Florence Dane. Ma mère, qui avait de l'ambition pour ses enfants, m'avait nommée d'après Florence Nightingale, tandis que mon grand frère portait le nom de Charles Darwin. Je vous aurais dit que le plus bel endroit du monde était la ferme de ma mère, au cœur du Maine. Des montagnes de myrtilles en été, des hectares de pommes de terre en automne. J'ai appris dans mon enfance à aimer l'odeur de la terre fraîchement retournée, la sensation de l'humus sous mes doigts, le soupir de contentement de ma mère en fin de journée, quand elle regardait tout ce qu'elle avait accompli et qu'elle en tirait satisfaction. Nous avions plusieurs renards parmi nos voisins, de même que des ours et des orignaux. Ces vagabonds ne dérangeaient pas ma mère. En revanche, elle était intimement convaincue qu'il ne fallait pas nourrir les animaux sauvages. Nous devions coexister avec la nature, pas la corrompre. Ma mère avait grandi dans une communauté. Elle avait de nombreuses théories sur la vie, que mon frère et moi ne comprenions pas toujours. Personnellement, c'était les renards que je préférais. Je pouvais guetter des heures devant leur terrier en espérant apercevoir les renardeaux. Ils sont joueurs, un croisement de chatons et de chiots. Ils adorent donner des coups de patte dans les balles de golf ou lancer de petits jouets en l'air. J'ai découvert ça comme les enfants découvraient les choses autrefois. En traînant dehors, le visage au soleil, en m'essayant à tout. Je leur ai apporté une vieille balle en caoutchouc, une souris bourrée d'herbe à chat et même un petit canard en plastique. Les adultes reniflaient ces offrandes d'un air circonspect, mais les petits bondissaient hors du terrier et se jetaient sur les nouveaux jouets sans l'ombre d'une hésitation. Parfois, je leur laissais une ou deux carottes. Ou si ma mère était particulièrement débordée et qu'elle ne faisait pas attention, des restes de hot-dog. C'était juste pour être une bonne voisine, essayais-je d'expliquer à ma mère le premier après-midi où elle m'avait surprise à déchiqueter du fromage à l'entrée du terrier. Ça ne l'a pas convaincue. Tous les êtres vivants doivent apprendre à se débrouiller seuls. Encourager la dépendance n'est pas un service à leur rendre, Flora. Mais plus tard, après une tempête de neige particulièrement violente début novembre, je l'ai vue porter des rogatons de notre dîner au même terrier. Elle n'a rien dit, et moi non plus. C'est devenu notre secret. Parce qu'à l'époque, nous n'imaginions rien de plus scandaleux que de domestiquer des renards sauvages. Ainsi, autrefois, j'aurais pu vous donner cette information à mon sujet. J'adore les renards. Du moins, je les adorais. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut facilement enlever à quelqu'un. Mais je ne m'amuse plus à les observer. Je ne leur apporte plus de jouets. Je ne leur fais plus passer de friandises de contrebande. Après 472 jours, j'essaye de trouver la paix dans la forêt. Je préfère de loin les grands espaces en plein air aux petits intérieurs confinés. Mais il y a des parties de moi, des sentiments, ce n'est plus pareil. Je peux refaire les mêmes gestes, me rendre dans les mêmes lieux, voir les mêmes gens, mais je ne ressens plus la même chose. Il y a des jours où je ne suis pas certaine de ressentir quoi que ce soit. Le mois d'avril est mon mois préféré. Je suis relativement certaine que c'est encore vrai. Il y avait dans la ferme une vieille serre toute branlante. Comment elle parvenait à survivre à chaque long hiver de bourrasque, mystère.
Mais vers la fin avril,
quand la neige fondait enfin, nous prenions le chemin de la serre dans la boue. Nous ouvrions à l'arracher sa porte gauchie et toute la structure protestait en grinçant. Seul homme et protecteur autoproclamé de la famille, Darwin menait l'assaut. Ma mère suivait avec une brouette pleine de sacs de terreau et de terre végétale. Je fermais la marche, avec des plateaux en plastique, et ça va de soi, des paquets de semences. Mon frère Darwin ne traînait pas. Il jetait les poignées de terreau à la volée, enfonçait les graines à la va-vite. Déjà à l'époque, il était impatient. Il aurait voulu être n'importe où, sauf là. Ma mère l'avait bien nommé. Il nous aimait, mais dès son plus jeune âge, nous voyions bien, toutes les deux, que rester à la maison ne serait pas sa tasse de thé. Si les profondeurs de la forêt nous attiraient comme le chant des sirènes, lui, c'était le monde entier qui l'appelait. Alors il travaillait à nos côtés, rapide, efficace, mais toujours la tête ailleurs. Ma mère l'observait en soupirant. « Il faut que jeunesse se passe », se disait-elle avec tendresse. Elle s'inquiétait pour lui, mais jamais pour moi. J'étais d'une nature heureuse. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mon frère est revenu de l'université à la seconde où il a appris ma disparition. Il est resté aux côtés de ma mère d'abord pour la soutenir. Et ensuite, quand la première carte postale est arrivée et qu'il est devenu clair que j'avais été kidnappée, mon frère l'aventurier s'est mué en guerrier. Facebook, Twitter, voilà quels étaient ses champs de bataille de prédilection. Il a monté des campagnes entières pour recruter de parfaits inconnus désireux d'aider à me retrouver. Et il m'a donné vie. Il a montré la personnalité de sa petite sœur au grand public. Des photos de mon premier anniversaire, moi dans la ferme, et oui, moi assise sur un monticule avec des renardos. Sauf qu'en réalité, ces photos n'étaient pas destinées au grand public, mais à mon ravisseur, pour qu'il me voie comme une enfant, une sœur, une fille. Mon frère s'était donné pour mission de m'humaniser pour me sauver la vie. C'est pour ça, je pense, que c'est lui qui a le plus durement accusé le coup quand, à mon retour, je n'étais plus la jeune femme de toutes ces photos. Je ne souriais pas, je ne riais pas, je ne jouais pas dans la boue et je ne partais pas à la recherche de renards. C'est que, voyez-vous, mon ravisseur aussi s'était donné une mission. M'ôter jusqu'à ma dernière parcelle d'humanité. Me vider, me briser, m'anéantir. On croit qu'on va se battre, ou du moins tenir le coup. On se promet d'être forte. Mais 472 jours plus tard. Quand je suis revenue, mon frère a dû quitter la ferme. Il fallait qu'il s'éloigne de cette sœur qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Lorsqu'il est parti, j'ai surtout éprouvé du soulagement. Une paire d'yeux en moins pour me traquer partout où j'allais. Une personne de moins déconcertée par cette nouvelle Flora Dane, qui n'était certainement pas un progrès par rapport à l'ancienne. Autrefois, j'aurais été triste du départ de mon frère. Je vous aurais dit que je l'aimais, qu'il me manquait, que j'avais hâte de le revoir. Autrefois, je vous aurais dit que j'aimais ma mère, que c'était la meilleure amie que j'avais sur cette terre, et que même si c'était excitant de partir pour l'université, j'attendais avec impatience les week-ends où je rentrais à la maison. Autrefois, j'étais comme ça. J'aimais le grand air. J'aimais m'amuser. J'étais épanouie. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux toujours pas vous dire à mon sujet. Des choses qu'il me reste à découvrir au fur et à mesure. Le soleil est levé à présent. Assise à l'arrière de la voiture de patrouille, la couverture serrée autour de mes épaules, des ordures séchées sur le visage, je sens le ciel s'éclaircir. Je ne regarde pas au-dessus de moi, ni autour de moi. Je n'ai pas besoin de voir pour savoir ce qui se passe. À ma gauche, dans la maison de celui qui a voulu m'agresser, les techniciens de scène de crime examinent le moindre centimètre carré à la loupe. Une poignée d'enquêteurs explorent aussi le bâtiment pièce par pièce. Font l'inventaire des appareils électroniques, jettent un œil aux piles de courrier, passent la chambre du barman au peigne fin. Je n'ai pas menti tout à l'heure. Je ne suis ni policière, ni agent du FBI. Et je n'ai jamais rencontré cette fille qui a disparu il y a 3 mois, Stacy Summers. Comme tout Boston, ou comme tout le pays en l'occurrence, j'ai simplement suivi l'affaire dans la presse. Et en même temps, je la connais. Je reconnais son sourire radieux sur ses photos de terminal, ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus de poupée. Je reconnais son exubérance sur tous ses portraits de pom-pom girl, les pompons rouges levés bien haut, et puis ses images sinistres, celles qui montraient une blondinette emmenée de force par un malabar. Matin, midi et soir. Dans l'esprit des rédacteurs en chef, l'heure était toujours bonne pour passer la vidéo sensationnelle d'une gamine de 19 ans, un peu éméchée, entraînée dans une ruelle sombre. J'ai lu tous les articles sur son enlèvement. Je suis restée fascinée devant ses parents, invités d'une matinale, alors qu'en théorie, je m'étais jurée de ne plus regarder ce genre d'émission. J'ai vu son père, un cadre d'entreprise sûr de lui, lutter pour conserver son calme. Pendant que sa mère, une femme entre deux âges, mais encore belle, la main serrée dans celle de son mari, suppliait qu'on lui rende sa fille saine et sauve. Stacy Summers, une jeune fille belle, joyeuse, pétillante, qui, d'après ses parents, n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je me demande ce qu'elle ignorait et ce qu'elle a déjà dû apprendre. La vérité, c'est que je connais Stacy Summers. Je préférerais que ce ne soit pas le cas. Je ne le fais pas exprès. Mais je la connais. Pas besoin d'être docteur en psychologie pour comprendre que chaque fois que je regarde sa photo ou que je lis un article, c'est moi-même que je regarde. Personne n'a appelé ma mère pendant les 24 heures qui ont suivi mon enlèvement. Personne ne savait que j'avais disparu. Au lieu de ça, elle a reçu un message confus de ma camarade de chambre 4 jours après le début des vacances. « Est-ce que Flora est bien chez vous ? Pourquoi ne nous a-t-elle pas prévenu qu'elle rentrait plus tôt ?» Évidemment, ma mère ne voyait pas du tout de quoi Stella voulait parler. Et il lui a fallu 20 bonnes minutes pour comprendre que je n'étais ni en Floride avec Stella, ni dans notre ferme du Maine, ni par miracle retournée dans ma chambre d'étudiante. En fait, personne ne m'avait vue depuis plusieurs jours. Ma mère n'est pas du genre à paniquer. Elle a raccroché et procédé aux vérifications d'usage. Elle a appelé mon grand frère. Elle a consulté sa messagerie électronique. Elle a jeté un œil à ma page Facebook. Son pouls est légèrement accéléré. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a pris sa voiture pour se rendre au commissariat. Plus tard, elle m'a raconté qu'il lui paraissait important de parler à quelqu'un en personne. Mais même faire part de ses inquiétudes était compliqué. Ma mère vit dans le Maine, mais je faisais mes études à Boston. Et en théorie, j'avais disparu pendant des vacances en Floride. Le policier se montra assez aimable. Il écouta tout ce que ma mère avait à dire. Sembla convenir que je n'étais pas le genre de fille à faire une fugue, même si, eu égard aux circonstances, on ne pouvait pas exclure un écart de conduite lié à l'alcool. Il l'encouragea à engager une procédure, en remplissant un signalement de disparition qui fut faxé au commissariat de quartier en Floride. Et ensuite, rien. Le soleil se leva. Le soleil se coucha. Mes amies étudiantes furent interrogées par la police de Floride. Puis elles rentrèrent à Boston, reprirent les cours. Pendant que ma mère attendait à côté d'un téléphone qui ne sonnait toujours pas. Jusqu'à ce coup de théâtre. Une carte postale déposée dans la boîte aux lettres. Mon écriture, mais les mots d'un autre. Et d'un seul coup, je suis passée du statut d'étudiante portée disparue à celui de victime présumée d'enlèvement, à laquelle son ravisseur avait fait franchir les frontières d'un État. Du jour au lendemain, mon affaire s'est retrouvée sous les feux de l'actualité et l'univers de ma famille a volé en éclats. Quand on est parent, on aimerait penser qu'on a un minimum de prise sur l'enquête qui concerne l'enlèvement de son enfant, m'expliqua plus tard ma mère. Mais ça ne marche pas comme ça. Le premier principe que posèrent les policiers, c'était qu'elle ne devait en aucun cas les appeler. En fait, ma mère ne rencontra un grand nombre des agents du FBI qui travaillaient sur mon affaire que lors de la première conférence de presse. En revanche, elle fit la connaissance de ses nouveaux meilleurs amis, les avocats des victimes. Vu leur titre, vous pourriez faire l'erreur de croire qu'ils agissaient en son nom à elle, la victime. Mais non, les avocats des victimes travaillent pour le compte des forces de l'ordre ou des services du procureur général. Ça dépend des endroits. Ma mère a eu affaire à 6 d'entre eux pendant ma captivité. Police locale, police d'État, police fédérale. Ils se relayaient, parce qu'on ne laisse jamais les proches des victimes seuls, surtout les premières semaines. Les avocats lui ont expliqué que c'était pour son bien. Et quand ils ont commencé à répondre à son portable qui n'arrêtait pas de sonner, elle les a remerciés. Quand ils ont planté dans son jardin une pancarte « Propriété privée, entrée interdite », à l'intention des journalistes, elle leur en a été reconnaissante. Et quand, oh merveille, ils lui ont fourni un énième repas tout en la dirigeant avec tact vers une chambre d'hôtel prépayée pour qu'elle puisse au moins prendre une bonne nuit de sommeil, elle s'est demandé comment elle aurait survécu à cette épreuve sans eux. Mais ma mère n'est pas naïve. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s'apercevoir que les avocats des victimes avaient en permanence des questions à la bouche. Sur la vie de ses enfants, sur leurs histoires d'amour, sur sa vie à elle, sur ses histoires d'amour. Et au fait, maintenant qu'elle avait mangé un morceau, pourquoi ne pas tailler une petite bavette avec les enquêteurs? Au début, elle a cru que c'était pour qu'ils puissent la tenir au courant de leur démarche pour me retrouver. mais elle a fini par comprendre qu'il s'agissait surtout de la cuisiner davantage. Et puis tiens, ce matin, son avocat tellement gentil et compatissant allait faire le tour de la maison avec elle pour rassembler des objets susceptibles de leur apporter des informations. Téléphone portable, tablette, journaux intimes. Et le lendemain, le même dirait d'une voix enjouée « Et si on allait faire un petit test au détecteur de mensonges ?» À peu près sur le même ton que celui qu'employaient autrefois ses amis pour l'inviter à une séance de manucure. J'avais disparu en Floride. Et ma mère s'est retrouvée au cœur d'un feuilleton policier médiatisé à outrance, sous la férule permanente de Nounou.
J'imagine que nous avons toutes les deux dû apprendre à survivre.
Et nous savons encore des choses que nous préférerions ignorer. Par exemple, je sais qu'un avocat des victimes va se pointer à la porte de Stacy Summers ce matin. Sans doute un proche de l'enquête. Peut-être que, comme moi, ses parents apprécient réellement leur avocat et qu'un lien s'est tissé. Ou peut-être que, comme ma mère, ils tolèrent simplement cette relation, une intrusion supplémentaire dans des vies qui ne leur appartiennent plus. L'avocat aura sur lui une photo de Devon Golding, mon défunt agresseur, qui n'en était sûrement pas à son premier coup. Il leur demandera s'ils reconnaissent cet homme, s'il y a une chance que Stacy ait pu le connaître. Aussitôt, les Summers auront l'audace, la folie, d'avoir à leur tour des questions. Est-ce que c'est lui, l'homme qui a enlevé leur fille? Qu'est-il arrivé à Stacy? Où est-elle? Quand pourront-ils la voir? L'avocat restera bouche cousue. Et pour finir, les Summers retomberont dans un silence dérouté, chaque bribe d'information n'engendrant que de nouvelles questions. Des questions qu'ils ne pourront pas poser à Devon Golding. Par ma faute. Mais pour ce qui est de voir l'enquête aboutir et de retrouver leur fille, je lance un regard vers la maison. J'espère que ces enquêteurs pourront trouver les réponses que je n'ai pas eu l'occasion de chercher. Par exemple, à qui appartient le sang dans le coin du garage? Devon est-il coupable de l'enlèvement de Stacy Summers, cette étudiante si belle et épanouie? Et qu'a-t-il fait d'elle ensuite? Je sais que j'ai regardé les images de l'enlèvement de Stacy plus souvent que je ne l'aurais dû. Que je dors dans une chambre au mur tapissé d'articles sur des personnes disparues qui n'ont pas encore réussi à rentrer chez elles. Je sais que, quand je suis sortie hier soir, je cherchais des choses dont j'aurais sans doute dû me tenir éloignée. Autrefois, j'aurais su tout vous dire à mon sujet. Les renards, le printemps, la famille. Mais maintenant, j'espère que Stacy Summers est plus solide que moi. J'aimerais dormir, poser ma tête sur la banquette de la voiture de police et rêver de l'époque où je ne pensais même pas à l'université, ni au charme trompeur des vacances de printemps, à la promesse d'une plage sous le soleil de Floride. L'époque où je n'étais pas encore seule à tout jamais. Une nouvelle clameur monte du trottoir d'en face. Je sens les remous de la foule qui ouvre un passage pour le nouvel intervenant sur la scène de crime. Inutile de lever la tête pour savoir de qui il s'agit. Je l'ai appelé. Alors il est venu. C'est comme ça entre nous. Ma mère avait ses nounous, mais de mon côté, cette relation a toujours représenté beaucoup plus pour moi. Une minute s'écoule. Deux. Trois. Puis il se présente à la portière toujours ouverte, tirée comme d'habitude à quatre épingles, avec son long manteau croisé boutonné jusqu'en haut pour se protéger du froid. « Allons, Flora, » dit Samuel Keynes avec un gros soupir.
« Qu'est-ce que tu as fait ? »